une qui va en couille.
Cannabis Circus.
Tous les jours, on va être là. Et la drogue, on va l'éradiquer. Vous le vouliez ou pas? Alors vous, les jeunes, vous avez intérêt à passer le message. C'est vous. Vous, consommateurs.
C'est shit que ça sent.
Cannabis Circus.
Derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste. Et il faut que chacun en ait conscience.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Circus Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Canu 102.2 MHz que tous les lundis soirs. Et quoi d'autre? Et toi, en tout cas, on doit t'entendre mieux que moi, si ça va à peu près. Voilà, donc c'est l'émission du cirque.
Allô, allô.
Sur le 26 mars 2018.
Allô, allô, allô.
Sur Radio Canu 102.2 MHz. Comme tous les lundis soirs. Et donc, on va vous parler de trois brèves. On va vous mettre deux, trois brèves. Ensuite.
On va en parler surtout. J'étais un peu fort, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est
d'accord.
Ça. J'ai réduit tout de suite le son. Ça y est, ça va mieux. On y arrive.
Donc oui, tu disais, on a quelques brèves à évoquer dans cette revue de presse, bien sûr.
Voilà, et puis après on va parler de différentes choses un petit peu en France
et en Belgique,
en Belgique, en Suisse, tout à fait, au Mexique aussi. On va faire un petit peu un tour d'Europe et du monde et puis on reviendra aussi un peu en France avec différentes petites choses, différents articles du cirque et autres. On reviendra aussi avec une étude israélienne qui est intéressante, qui dit que le cannabis est plus efficace que la morphine. Donc là aussi, on le savait sur certaines douleurs, mais voilà, pour certaines douleurs, c'est plus que vrai maintenant.
Enfin, c'est moins mortel en tout cas.
Voilà, et en plus, c'est moins mortel. Voilà, on reviendra un petit peu sur toutes ces choses-là. Et puis, je pense que cette fois, on aura le temps de se faire un article un petit peu complet sur une critique acerbe de la politique de répression qui a continué avec les amendes forfaitaires. Et quelqu'un qui décrypte, qui connaît bien le milieu, qui décrypte tout ça, ce qui est assez intéressant. Voilà.
Donc tu es en train de dire que ce soir on va enfin parler de cet article, de ce blog de Bénédicte Desforges, ancienne lieutenant de police, qui a fait un état des lieux de cette réforme sur la contraventionnalisation de l'usage du cannabis, qui dit des choses très intéressantes. Donc voilà, on va enfin en parler après deux lundis où on n'a pas trouvé le temps. Cette fois-ci, on devrait y arriver.
Ouais, on va peut-être même essayer de le placer au milieu pour s'en sortir.
Bah.
Allez, si on veut, on va commencer par nos brèves. Alors, deux petites brèves. Alors, c'est des grands trafiquants internationaux, c'est bien ça qui est jugé à Rennes.
Oui, qui ont été jugés à Rennes. Et alors, j'ai choisi cet article puisqu'il est expliqué dedans que ces quelques individus qui trafiquaient en grande quantité du cannabis avaient quand même été parvenus à corrompre douaniers et magistrats espagnols. Donc c'est un peu entre la France et l'Espagne, il y a eu un partout balle au centre. Hein. Pourquoi? Parce que on en a quand même beaucoup parlé ici, et on en reparlera sans doute. En France, on a l'affaire François Thierry. Hein, François Thierry, directeur de l'Office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants, qui est quand même mis à pied depuis cet été, l'été dernier, et qui est suspecté d'avoir magouillé plusieurs centaines de, enfin plusieurs tonnes de cannabis qui sont entrées en France. On sait encore pas trop pourquoi, comment. Il y a une enquête qui est en cours. Et puis notamment par rapport à François Thierry, il y avait quand même la magistrature espagnole qui se méfiait qui a fini par se rendre compte que la police française était corrompue. Et là, dans cet article, on a effectivement l'exemple de magistrats et de douaniers espagnols qui, là, pour le coup, ont aussi été corrompus par des trafiquants français. Donc bon, ben finalement la corruption, à partir du moment dans un régime prohibitionniste, la corruption, ça concerne tout le monde, hein, et ça peut également concerner des Espagnols, des Français, on l'a vu, mais peut-être aussi, on ne sait pas, des Italiens, des Belges, des Suisses, des Anglais, des bref.
Ouais, voilà. Comme certains romanciers le disent, tout le monde est corruptible, il suffit d'y mettre le prix.
Voilà, voilà, donc visiblement, ces individus ont mis le prix. Alors, ils sont sept, présentés comme sept trafiquants de cannabis qui étaient jugés à Rennes la semaine dernière, qui alimentaient plusieurs pays européens, dont la France. Alors, on ne peut pas forcément vous donner les noms des protagonistes, mais il y avait un individu qui était plutôt alors considéré comme le producteur fournisseur de ce gros réseau international. Lui, alors il voulait pas parler plus de 30 kilos, une cinquantaine éventuellement, mais il y a quand même des tonnes qui sont en jeu, hein, d'après ce qui ressort des écoutes téléphoniques. L'un d'eux a 45 ans, c'était plutôt le planificateur. Lui, il était plutôt chargé de s'assurer que les voitures bien remplies en cannabis passaient bien le contrôle avec les douaniers, qui, en passant, hop, recevaient une petite enveloppe d'argent liquide. Pareil pour les gardes-côtes, lorsqu'il s'agissait d'acheminer la marchandise par voie maritime.
Voire même certains magistrats.
Espagnols, oui.
Espagnols, ouais, ouais. Tout à fait. Après, en France, alors ça c'était deux frères, c'était un peu pareil. Eux, ils sont tombés avec une centaine de kilos en octobre 2015. Et donc, ce serait un petit peu le transporteur, pas tout à fait une go-fast, genre il passait avec une call girl pour passer inaperçu lors des transports. Voilà, donc ils disent que c'est quand même des quantités impressionnantes. Les écoutes font un écho d'une fois de 300 kilos, une autre fois de 2 tonnes, un autre coup 600 kilos, puis encore 2 tonnes. Voilà. Donc ils disent qu'il y a quand même... voilà, ça fait quand même c'est du gros. Et donc, ils pensent... ils pensent demander, oui, bah, pas mal d'années, plus jusqu'à 20 ans de prison sont demandés. Donc le procès se poursuit encore donc aujourd'hui et on ne sait pas encore exactement quels vont être les résultats. Dans les autres choses dont on peut parler, c'est un land, c'est dans les Landes. Là, c'est un retraité qui, au début d'une soixantaine d'années, lunettes, certis de noir, veste marron et jean, visage rond et avenant, le Landais ne correspond pas du tout au portrait type du trafiquant de drogue. Et donc, pourtant, c'est lui, il fait pousser un petit peu. Et la police a trouvé chez lui 500 grammes de feuilles, de plans et des installations modernes. Alors, a priori, on ne sait pas si c'est vraiment du très gros ou du moyen, mais il y aurait eu deux granges, l'une qui servait à faire pousser et l'autre qui servait à faire sécher. Voilà, et il aurait gagné entre 25 000 à 30 000 euros en 2 ans. Voilà, ce qui n'est pas non plus des sommes phénoménales. Voilà, c'était juste pour faire un petit peu de complément.
Bah, c'est des gens qui ont quand même des moyens, hein, d'après ce qu'on peut lire. Quand même.
Et donc, la justice leur a mis que de la prison avec sursis, 18 mois, alors qu'il était demandé 2 ans et 6 mois ferme, et 60 000 euros d'amende. Ça, c'était ce qui était demandé et c'est ce qu'ils ont eu. Voilà un petit peu pour ces deux...
Alors là, par contre, 60 000 euros d'amende, moi, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Hein. Enfin, pour une situation un peu comme celle-ci. Alors, je pense que l'amende est très forte parce que... Ils gagnent pas mal d'argent. D'ailleurs, ce monsieur qui est retraité touche 3 400 euros de retraite mensuelle, ce qui est quand même pas mal. Ils sont propriétaires d'une maison, d'un appartement en Espagne et d'un bateau. Je pense que c'est pour ça qu'on leur a mis une très grosse amende. Mais, ouais. Enfin, je sais pas, moi, j'ai rarement vu des amendes de 60 000 euros pour des situations comme ça. Hein. Voilà.
Je vous préviens s'il y a la guerre, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir dans mes affaires, dans mon logement, dans ma suite. Il y aura deux, trois déserteurs, des polissons réformés qui chanteront la main au cœur, des chants d'Ukrainiens bourrés. La la la, la la la, la 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 la. Et s'il y a révolution, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir l'habitation qui entoure ma suite. Il y aura de bonnes préparations, des cocktails façon maison, des tirs flemmes et des lance-coeurs et des pistolets pour bonheur. Mais faudra pas venir pleurer si après vous êtes tous tués et que nous-mêmes emprisonnés, on soit tous en train de chanter la 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 la. Et je vous préviens que s'il y a combat, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir en bas de chez moi, dans le jardin de ma suite. Les cheveux longs pour armement, des slogans à tout bras le vent. Faites l'amour le plus souvent, et pas la guerre évidemment. Mais faudra pas venir pleurer, si après vous êtes tous tués. Et que nous-mêmes emprisonnés, on soit tous en train de fumer. La la la, la la la, la 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 la. Et je vous préviens que s'il y a manif, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir là où j'habite, dans ma maison sans calife, où il fait bon préparer des chants pour manifester, avec des paroles anarchistes et des refrains je m'en foutiste. Mais faudra pas venir pleurer si c'est bien ensoleillé et qu'on préfère picoler à la terrasse d'un café. La la la, la la la, la la la, la la la. Et s'il y a une trahison, cherchez pas plus loin que ma suite. Prenez l'adresse de ma maison et rendez-y vous très vite. Moi et mon frère, on est espions, et mes soeurs, c'est des bouffons. Les secrets d'état mon fion contre un coup à boire entre les dents. Mais faudra pas venir pleurer si on vous ment à volonté et pour fausse information, vous soyez tous dégradés. La la la, la la la, la la la, la la la. Et même si on montre temps, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir l'appartement qui était là avant ma suite. Y aura bien sûr toutes les sorcières, les crânes tendus, les juifs allemands, Jésus, Judas et mon grand-père, celui qui a déserté lâchement. Mais faudra pas venir pleurer si votre époque est ruinée et qu'on puisse lire notre vie dans toutes nos encyclopédies. La la la, reviens ici à la paix, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir dans le palais qui orne ma suite. Il y aura tous les clandestins, les honnards et les cousins, des matelots anarchistes et des pédés trapézistes. Mais faudra pas venir pleurer si on est tous en bonne santé et que dans votre dictocratie on y fout de l'anarchie.
On vient de s'écouter Grand-mère des Ogres de Barbac.
Bien. Alors, ensuite, toujours dans notre revue de presse hebdomadaire, vous êtes toujours donc sur Cannabis Circus dans l'émission Cannabis Circus dans, sur Radio Canu, pardon, je m'a trompé. Alors, un article maintenant qui nous vient de Pourquoi Docteur ?
Voilà, qui s'intitule « Le cannabis est efficace chez les seniors qui souffrent de douleurs chroniques » par Mégane Fleury.
Oui, c'est la journaliste de Pourquoi Docteur. Donc le, voilà, je vous lis l'introduction. Hein. « Le cannabis thérapeutique serait efficace pour soigner des douleurs, les douleurs chez les personnes âgées. Il s'avère même plus performant que les traitements à base d'opioïdes. » En tout cas, c'est ce que révèle une étude qui a été menée par des chercheurs israéliens. Et oui. israélien, parce que on ne le répétera jamais assez, mais Israël est à, au demeurant carrément réac, voire dictatorial et colonialiste, hein, ça on peut pas le nier, mais sur la question du cannabis, alors là, ils sont carrément surprenants, quoi, parce qu'ils ont plusieurs décennies d'avance sur la France, mais en même temps, quand il s'agit de la France, c'est pas bien compliqué que d'avoir de l'avance sur la question du cannabis.
Mais ils ont de l'avance quasiment sur tous les pays, surtout.
Oui. Enfin, en tout cas,
sur,
ils ont...
Sur le cannabis médical, ça fait un moment qu'ils y sont.
Ouais, bah, c'est eux qui... Enfin, c'est Raphaël Meschoulam, hein, pour pas le nommer, qui est le médecin qui a découvert le THC, le CBD dans les années 60. Et en tout cas, ils font des recherches sur la question du cannabis et notamment de ses applications au niveau thérapeutique. On en avait déjà parlé. Hein,
voilà, et surtout des problèmes de soigner la douleur. Donc on soigne la douleur principalement avec des opioïdes. Donc et d'ailleurs, c'est l'Office français, l'Observatoire français des médicaments antalgiques, hein, qui indique qu'entre 2004 et 2015, l'usage d'antalgiques opioïdes a fortement augmenté de 74%. Donc,
en France. Hein,
en France, voilà. Ça, et donc, il y a le même souci aux États-Unis, on en a parlé il n'y a pas si longtemps.
Et ça a tué 60 000 personnes en 2016. Hein.
Voilà, donc avec beaucoup de problèmes et d'overdose mortelle, évidemment. Et là, donc, les hospitalisations aussi en France pour overdose due à ces traitements ont augmenté de 128% entre 2000 et 2015.
Oui.
Donc, ça fait quand même pas mal. Donc, le problème de l'usage des opiacés pour soigner la douleur est quand même très, très problématique. Voilà. Et donc, eux, ils ont essayé autre chose et ils ont pris 901 patients âgés de plus de 65 ans qui ont participé à la recherche dont on parle, qui allaient soit pour des cancers, soit pour la maladie de Parkinson, soit pour des stress post-traumatiques, soit pour des colites ulcéreuses, soit encore pour la maladie de Crohn. Donc après 6 mois de traitement à base de cannabis thérapeutique, plus de 93% des participants déclarent que leur douleur a diminué de 4 à 8 points sur une échelle allant de 1 à 10. Plus de 70% des patients affirment qu'ils ressentent une amélioration de leur état. Donc c'est voilà, quand même des effets super, 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 super positifs.
Du calme.
Voilà, donc...
Donc des effets positifs, voilà.
Et surtout par rapport, donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au problème des traitements avec les opiacés qui sont qui ont beaucoup plus de problèmes, qui donnent des risques de dépendance, et donc qui sont plutôt moins bons, voilà.
Bah, disons que ce qu'ils disent quand même dans l'article, c'est que les opioïdes, pour lutter contre la douleur, c'est quand même super efficace. Alors, c'est, si vous voulez, c'est compliqué parce que c'est très efficace, mais il peut y avoir un risque de surdose et donc il peut y avoir une issue fatale, quoi. Donc bon, ce qui n'est pas possible avec le cannabis, hein. On ne peut pas faire une overdose, ou alors il faudra en consommer plusieurs tonnes, ce qui est humainement impossible. Et encore. Mais bon, voilà, l'un dans l'autre, finalement, bon, le cannabis thérapeutique s'avère être une possibilité plus qu'intéressante, puisqu'elle peut soulager. En plus, il n'y a pas d'effet secondaire, en tout cas, on ne risque pas d'en mourir, quoi. Voilà, et donc, comme on le disait, aux États-Unis, il y a un véritable fléau, hein, sur la question des opioïdes et du décès. Par rapport aux personnes qui en consomment, il faut quand même savoir qu'il y a eu 64 000 décès en 2016. Et alors là, on n'a pas mis l'article dans la revue de presse, mais il y a un article qui a circulé la semaine dernière où Donald Trump s'en est mêlé et il a expliqué qu'il allait poursuivre les dealers d'opioïdes et qu'il voulait même, il demanderait même la peine de mort les concernant, ce qui peut poser problème parce que la plupart de ceux qui prescrivent des opioïdes à leurs patients sont des médecins, Donc je ne sais pas si Trump souhaite aller jusqu'au bout de cette démarche. En l'occurrence, si c'était le cas, il ferait procéder à l'interpellation et à la mise en prison et donc à éventuellement l'adoption d'une mesure de mort, en fait, de condamnation à mort pour des médecins qu'auront prescrit des opioïdes. Et si on va même plus loin, il faudrait aussi mettre en prison, poursuivre et peut-être condamner à mort des gens qui bossent dans des labos pharmaceutiques. Donc bon, je ne suis pas certain que ça se passe de la sorte, mais le mieux serait encore de légaliser le cannabis et notamment les solutions thérapeutiques partout aux États-Unis, puisque on en a déjà également parlé. On sait que partout où le cannabis, notamment le cannabis thérapeutique, a été mis en place, on observe une baisse de la consommation des opioïdes. Voilà. Ensuite, on fait un petit chapitre communiqué de presse pétition, si tu n'y vois pas d'inconvénient.
Tout à fait, il y en a deux. Une par Normal.
Alors ça, c'est la pétition.
Normal France, voilà, donc des ex-copains du cirque, mais bon...
Bon, des partenaires quand même dans la lutte contre la prohibition. C'est quand même toujours des partenaires.
Tout à fait, donc qui rappelle
même si on se parle à distance
que la France, ça y est, on a choisi, on sait ce qui va se passer. Ça va être une amende et ça serait sans doute une amende forfaitaire délictuelle. Donc on va revenir exactement sur ces termes et tout ce que ça implique justement en fin d'émission. Et elle sera fixée donc à 300 euros. Elle sera sans doute doublée si elle n'est pas payée dans les 40 jours. Et si la personne a déjà été condamnée pour consommation, c'est le passage devant le juge assuré. Voilà, donc c'était à peu près ce qu'on pensait qui allait arriver, a priori. Ils auraient eu des infos et ça serait dans ce sens-là que ça va. Donc Israël rappelle que ils écrivent au président, il lui rappelle qu'il a été élu pour une promesse de renouveau. Il avait dit qu'il n'était pas contre la légalisation et prêt à en parler et à en débattre. Mais on est en mars 2018, le débat n'a pas eu lieu. Le sujet, la proposition finale qu'ils vont faire voter n'est qu'un vulgaire paragraphe caché dans 82 pages de texte. Quelque part entre le statut du parquet national terroriste et la législation sur les divorces. Voilà, donc ils disent qu'en France, bon, on est un petit peu en retard, hein, la Norvège dépénalise, le Portugal y est depuis 15 ans, l'Allemagne y réfléchit, le Royaume-Uni infléchit ses positions, la Suisse aussi, on va revenir là-dessus, ça avance, la Belgique aussi, on va aussi revenir là-dessus. Bref, à 2 heures de Paris, tout le monde peut aujourd'hui se procurer du cannabis légalement. Donc aujourd'hui, les consommateurs sont suffisamment incriminés. En 2016, on a eu 220 000 interpellations. Voilà, donc pourtant, il rappelle que, mais comment en vouloir à un juge réaliste qui constate qu'un citoyen ne fait pas de mal à personne, même pas à lui-même, en vaporisant son cannabis ? La loi qui incrimine l'usage n'est pas nécessaire, la peine est disproportionnée. Voilà, l'usage reste un délit, donc avec cette amende délictuelle, donc ça ne fait pas changer grand chose au schmilblick, ça reste de la prohibition pure et simple. Bon, je lis pas exactement leur texte, mais je vous incite à aller les signer, évidemment, hein, c'est sur le site change.org, c'est le
change.org.
Ouais, change.org, si j'ai envie de le présenter à la française, tu m'énerves.
On a compris échange la première fois.
Ah, pardon.
Donc c'est change, voilà. Change.org.
Ou change.org, si tu préfères. Voilà, si on veut le faire en anglais.
Mais peut-être serait bien de donner le titre de la pétition. Donc c'est cannabis 2. L'amende ne change à rien. Il faut réguler d'urgence. Voilà, donc c'est pour que vous puissiez trouver.
Voilà, donc il conclut pour dire qu'actuellement il y a un cercle vertueux qui s'instaure partout dans le monde. Il faut être aveugle pour ne pas remarquer que les pays ayant adopté des lois plus réalistes et justes sur le cannabis connaissent aujourd'hui bénéfices économiques, réduction des consommations, augmentation de la prévention, de meilleures luttes contre les addictions. Voilà, tous les modèles ne sont pas à suivre, bien sûr. Il faut voir un peu comment ça se passe, mais en tout cas, un débat national sur le sujet est aujourd'hui nécessaire. Il est temps que la question de la dépénalisation et de la régularisation et de la régulation soit posée. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes prêts au changement.
Voilà, donc pour trouver cette pétition, plusieurs possibilités. Donc vous allez directement sur le site change.org et vous tapez dans la barre de recherche cannabis, deux points, l'amende ne changera rien, il faut réguler d'urgence. Vous pouvez aussi trouver cette pétition qui circule sur nos réseaux sociaux, donc sur la page Facebook du Cirque et du Cirque Lyon. Et je pense que si vous allez sur le site Normal France, vous trouverez également un lien vous orientant vers la pétition sur change.org.
Voilà,
je pense. Donc nous vous invitons ardemment à vous rendre sur cette page et à signer la pétition. Il y a déjà 12 000 personnes qui ont signé. Donc on est là, l'objectif c'est d'atteindre les 15 000 et une fois qu'on aura atteint les 15 000, on aimerait bien atteindre 20 000. Enfin, l'objectif ce serait d'en faire signer un maximum, quoi.
Voilà.
Et comme moi, toujours.
Je rajouterais quelque chose quand même. Donc bien sûr, la pétition, mais par rapport à ce cher Macron, lui il n'hésite pas quand même à utiliser le cannabis pour faire augmenter le PIB. Parce que juste en incluant...
Je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait pris la décision. Hein.
Oui, mais ça n'empêche pas que c'est son gouvernement, c'est fait actuellement.
Oui, enfin c'est l'INSEE, lui, il n'a rien demandé.
L'INSEE, il l'avait refusé avant.
Oui, ils l'ont refusé il y a quelques années. Ouais. Puis là, ils ont accepté.
Maintenant, il l'a accepté. Je ne
suis pas sûr que ce soit Macron, quoi.
Oui, non mais laisse-moi aller en allant.
Je te laisse.
Parce que là, actuellement, il se gargarise sur le résultat économique. Où, soi-disant, le taux de le déficit est passé en dessous de 3% tout en continuant à augmenter, uniquement pour une seule raison, c'est que le PIB a augmenté. Pourquoi il a augmenté? Artificiellement, parce qu'on a inclus le cannabis à l'intérieur.
J'avais pas fait cette gymnastique d'esprit-là, mais effectivement, mais c'est intéressant, on peut se poser la question. Ouais.
C'est très intéressant, et je vois qu'il y a très peu d'économistes qui pointent ceci du doigt.
Voilà. J'en ai même pas du tout entendu parler, j'ai rien lu à ce sujet, mais oui, c'est intéressant, effectivement, tu fais bien de...
Tu sais bien qu'on l'a inclus, puisqu'on en a parlé.
Oui, on en a parlé il y a à peu près un mois, ouais.
Et c'est qui fait les statistiques? C'est l'INSEE, donc tout est cohérent,
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, j'espère qu'un économiste va se pencher sur la question et va nous écrire un bon papier pour qu'on puisse en parler. Si ce n'est pas le cas, eh bien, si vous écoutez Cannabis Circus ce soir, vous avez un scoop, vous avez une explication lumineuse. En effet, c'est très intéressant. Bien, continuons.
Autre communiqué de presse, celui du cirque qui s'appelle « Face à l'hypocrisie et à l'incompétence de nos dirigeants, nous ne payerons pas ». Donc c'est toujours à propos de cette amende qui vient de tomber, qui sera de 300 euros. Voilà, et plus, 300 euros.
Donc je l'ai dit alors.
Je t'en prie.
Alors donc, les auditions des associations investies dans la réduction des risques liés à l'usage des drogues, autant celle des intervenants de santé que des usagers, n'ayant eu que peu d'impact sur la mission parlementaire chargée d'étudier le projet gouvernemental d'amende forfaitaire, une nouvelle initiative citoyenne vient de voir le jour. Une énième pétition, donc, après celle lancée par le cirque qui avait recueilli un peu moins de 3700 signatures, dont celle de quelques personnalités à l'occasion du 40e anniversaire de l'appel du 18 juin en 2016. C'est initié cette fois-ci par l'association donc Normal France, dont on vient de lire la pétition, hein, émanation de la célèbre organisation antiprohibitionniste nord-américaine qui œuvre depuis des décennies avec les résultats que l'on constate aujourd'hui, donc notamment Colorado, Alaska, Californie, Oregon. Voilà. Bon. Pétitions et communiqués de presse, agrémentés de quelques conférences et colloques, sont hélas les seuls moyens dont dispose en France les mouvements engagés dans la réforme de la politique des drogues. Malgré un relatif assouplissement du discours ambiant, force est de constater que le débat médiatique s'est dernièrement vu confisqué par la nouvelle pensée dominante sur le sujet, celle de l'addictologie, dogme tout aussi réducteur et moraliste que ne le fut celui, criminogène de surcroît, de la prohibition. Le cirque appelle donc les cannabinophiles, dont il se revendique depuis toujours, à signer cet appel à l'abandon du projet gouvernemental de contraventionnalisation des usagers de drogue, en général, et du cannabis en particulier. Si le cirque considère par ailleurs qu'il est un devoir d'utilité publique pour tous les usagers des drogues que de refuser de régler ce qui s'apparente davantage à un racket d'État qu'à une véritable politique de santé publique, il appelle donc à un mouvement de désobéissance civile sur ce sujet. Et nous rajoutons, et il invite également à aller signer la pétition dont on vient de parler juste avant. Voilà. Et donc, on disait, il y a encore quelques minutes que, à moins de 2 heures de Paris, il était possible d'acheter du cannabis. En tout cas au Mexique, là-bas, ils ont commencé à.
Ah mais t'es déjà parti au Mexique
faire la fête. Bah oui.
Ah mais tu vas trop vite là-haut.
Ah bon, pourquoi?
Cannabis.
Cannabis Circus.
Oh, c'est rien.
Une heure sur Radio Canu.
Ne jouez pas avec la marijuana. Détention 20 ans, vente perpétuité.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Ouf, ça y est, on est arrivé au Mexique.
Voilà,
j'étais pas monté dans l'avion encore.
Quand même, hein. Donc là-bas, ils ont fait leur première coupe cannabique.
Alors attention, un article qui ne s'est pas vu dans la presse française, mais qui est sorti dans la Tribune de Genève.
Ah oui, les Suisses avancent quand même. Ah bah. Et puis eux, ils en ont fait pas mal des cannabis cups quand même. Ils en sont bien à leur 10e ou à leur 20e.
Ouais. Alors, ceci dit, depuis quelques années, j'en entends plus trop parler des cannabis cups en Suisse, hein, parce qu'il y a eu un gros retour en arrière, et là ils repartent de l'avant.
Voilà,
on va en reparler. Bah hein,
mais elles n'ont jamais été, totalement disparues non plus. Elles sont passées
c'était
très, très chambre, voilà.
Bah, disons qu'au milieu des années 90, ils étaient, c'était bien.
Voilà, tout à fait. les choses avaient monté. Et, bah, elles ont, pareil, le balancier est revenu aussi en Suisse. Il n'y a pas qu'en France.
Non, tout à
et
fait.
Et là,
tout
il
tout
repart aussi. Et en France aussi, on va arriver à le faire repartir. On va...
Bah, il est un peu bloqué chez nous, le balancier. Hein.
Ouais, mais on va.
Depuis longtemps déjà.
On va le faire hacher. Bref, au Mexique, et c'était 250 amateurs de cannabis. 250, c'est ridicule. Quand on pense en Suisse, mais ils étaient 2000 à Bonn. Quoi. C'est quoi, Berne, des trucs, c'était énorme, énorme.
Ouais.
Ah voilà, donc l'usage de la marijuana est toujours prohibé quand même au Mexique, mais ça n'empêche pas que là c'était organisé donc dans l'Ouest.
Bah, c'est dépénalisé quand même.
Rara.
C'est dépénalisé depuis 2009 au Mexique quand même.
Le récréatif.
Oui.
Le médical.
Oh mais non, le, non.
Là c'est écrit noir sur blanc, l'usage récréatif de la marijuana y est prohibé.
Oui, enfin prohibé.
Non, il y a un petit peu de cannabis thérapeutique qui est autorisé, mais voilà, mais en lui-même, après, il y a peut-être plus d'autorisation quoi, de laisser aller qu'ailleurs, parce que c'est comme tout, avec tout ce qui se passe, les policiers ont peut-être autre chose à faire que courir après les dealers ou les consommateurs de marijuana.
Consommateurs, surtout,
alors que ça pousse un peu partout au Mexique. Quoi.
Mais où cela ne pousse-t-il pas?
Mais où cela ne pousse-t-il pas?
Au pôle.
Pas tout à fait. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils disent? Bon, on a trouvé de tout, hein, des stands pour des revues, pétards, pipas verts, même produits
pipa
de beauté. Des savons, des pommades, des lubrifiants sexuels, tout ce qu'on veut. Voilà. Des gâteaux aussi, un pâtissier amateur propose des desserts au cannabis et dit attention, hein, si tu fumes occasionnellement, tu vas vivre un trip qui va durer longtemps. Hein. Lui, il l'a dit, il donnait, selon ce que tu mangeais, entre 8 et 12 heures le trip. Donc, voilà, donc il y avait une vingtaine de variétés, tout était regardé, hein, la texture, l'arôme, la saveur, ainsi que l'absence de champignons et de pesticides. Pour voir l'absence de pesticides, il va falloir faire des études assez poussées. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était pas mal a priori. il y en a même un ministre mexicain des touristes, donc qui rappelle un peu la situation au Mexique, qui a proposé d'une légalisation dans certains états les plus touristiques du pays, comme la Basse-Californie du Sud ou le Quintana Roo, afin d'enrayer la hausse violente liée au trafic. Voilà, il rappelle que des cartels de la drogue particulièrement violents se disputent au Mexique la production, le trafic de marijuana et des autres stupéfiants afin de desservir le premier marché du monde, les États-Unis. Voilà, il faut rappeler quand même que la guerre à la drogue là-bas fait quand même en moyenne une dizaine de morts par jour, soit 3000 morts par an, soit depuis plus de 10 à 15 ans qu'il y a ce genre de morts. On commence à être à une cinquantaine de milliers de morts à cause de la guerre à la drogue au Mexique. Et ce qui fait que je vous rappelle, il y a l'ancien président mexicain qui est maintenant pour la légalisation de la marijuana au même titre que d'autres ex...
Chefs d'État. Alors ce que j'ai pas entendu, ce que tu n'as pas dit, il me semble, hein, c'est que participaient à cette Cannabis Cup un certain nombre de personnes qui venaient d'une bonne partie de l'Amérique du Sud, en fait.
Oui, c'est exact. J'ai oublié de préciser qu'il n'y avait pas que des Mexicains.
Voilà, il y avait des gens qui venaient du Mexique, donc, mais aussi d'Argentine, d'Uruguay, hein, forcément, du Chili et aussi des États-Unis. Donc beaucoup d'amateurs, de cannabinophiles, de militants qui venaient de différents pays d'Amérique latine.
Voilà, oui, et donc c'était vraiment, je pense, une coupe cannabis donc, organisée donc, dans un, à juste 250 amateurs, donc triés sur le volet pour ne pas être embêtés dans un lieu un peu tenu secret, je pense. Voilà, comme ça a été fait dans certains chalets vosgiens, si je me souviens bien, il y a une dizaine d'années.
Bah, c'était en 2002.
Oui, oui.
C'est fin 2002, ouais. Décembre 2002.
Et il y en a eu plusieurs, d'ailleurs.
Enfin, celle-ci avait été connue parce que Canal+...
S'y était invité. Oui, ou Canal+, avait été invité.
Qui n'était pas ce que s'il est devenu aujourd'hui. Voilà, alors maintenant, on revient sur le continent européen et on va aller faire un petit tour en Suisse.
Tout à fait, où là, c'est le matin suisse qui nous parle de ça. Le Parlement veut expérimenter, donc qu'est-ce que c'est ça? C'est certains cantons comme Genève souhaitent tester des produits sur les effets de la régularisation du cannabis. Voilà, alors d'autant plus que si vous vous souvenez bien, actuellement en Suisse, il y a de l'herbe qui se vend dans tous les bureaux de tabac, avec des pourcentages indiqués dessus qui, a priori, sont totalement farfelus, avec 0,2% de THC.
Sur la plupart des produits. Ouais.
Et 10 à 15% de CBD. Alors, s'il est vrai qu'il y a très peu de THC, il est par contre faux qu'il y ait beaucoup de CBD, et le taux de CBD a l'air d'être aussi relativement faible, voilà. Voire très faible. D'où voilà quand même le foutage de gueule quand même qui actuel.
Bah, ils en sont qu'au début, je pense que tout ça va aussi un peu rentrer dans l'ordre. Ils vont faire des contrôles qualité, ils vont probablement disqualifier un certain nombre de produits ou de fabricants, et puis bon, les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit, j'ose espérer.
Voilà, et surtout,
y a pas de raison.
Avec l'expérimentation réelle d'un cannabis légal, au moins les gens pourront tester et faire mesurer les taux réels qu'ils ont dans leurs plantes et les afficher, puisque rien ne sera illégal. Et par contre, on pourra avoir, je pense, et si tout va bien, on aura le taux de CBD, de CBN, de THC, et voir peut-être dans les années qui arrivent d'autres cannabinoïdes dont on aura détecté telle ou telle vertu et qui seront prisées à ce moment-là selon les effets de mode.
Alors sinon, en ce qui concerne la Suisse, on a déjà beaucoup parlé, il y a des villes qui ont voulu mettre en place un système de régulation du cannabis récréatif, hein. Mais ça n'avait pas pu se faire, puisque l'OFSP, hein, qui est l'Office fédéral de la santé publique, avait refusé jusqu'ici d'autoriser une étude scientifique, notamment de l'université de Berne, sur les effets de la régularisation de la vente de cannabis sur les consommateurs et aussi sur le trafic à Berne. Et elle ne voulait pas parce qu'elle disait la loi actuelle ne permet pas d'expérimenter ceci, ne permet pas une consommation à des fins non médicales. Et l'OFSP avait dit il faut que le législateur prenne ses responsabilités et qu'il y ait quelque chose de plus clair au niveau législatif.
C'est
ce qui vient de se passer. C'est ça qui est formidable. C'est
ça avance doucement, mais
ça avance super vite. Ça avance super vite. Quand on avait vu ça, je crois que c'était au début de l'automne. On est au mois de mars et ça y est, ils ont déjà voté. Alors en fait, et puis ils ont voté largement, hein, parce que là, ils ont voté par 12 fois.
Et
par
12 voix. Sans aucune opposition.
Sans opposition, voilà. Donc c'est la commission du Conseil des États qui a donné une suite favorable à une initiative parlementaire, qui prévoit donc de combler cette lacune et de compléter la loi par un article sur les projets pilotes. C'est ce qu'a annoncé vendredi les services du Parlement. Voilà. Et donc, la Commission du National, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, peut désormais travailler à un projet concret. Et elle ne partira pas de zéro. Hein. L'OFSP a déjà annoncé qu'il étudiait comment compléter la loi actuelle. Une démarche qui est soutenue par une motion que la Chambre des cantons vient d'adopter. La Chambre des cantons. Donc ça peut même se généraliser à toute la Suisse, si je comprends bien. Puisque la Suisse est un pays de cantons.
Tout à fait. Et donc, ben là, s'il y aura que des projets pilotes pour commencer. Et donc, ça sera surtout des villes donc, comme Genève, Zurich, Bâle ou Bienne ont manifesté leur intérêt pour cette expérience.
Voilà.
Donc, c'est sans doute les villes qui vont commencer. Donc, on vous tiendra au courant de tout ce qui se passe.
Bah oui, parce que si ça continue, à 1h30 de Lyon, j'en dis pas plus. Maintenant la Belgique.
Voilà, qui est un peu plus loin. Là aussi, ça avance, ça bouge. Que ça bouge, c'est encore des bruits et des mots. Mais quand même, c'est surtout là, c'est deux articles. Donc l'un, c'est dans RTBF Info. Ils interviewent le député bruxellois, PS. Hein. Là-bas, il y a un parti socialiste. Julien Huitendael, si tu veux.
Ça se dit comme ça.
Je sais pas, je parle pas belge, moi. voilà, bon, les questions, c'est un échec à la répression du cannabis. Arrêtons de courir comme un poulet sans tête.
Ah, j'aime bien
la
ça.
Répression des fumeurs de cannabis a-t-elle encore du sens? La réponse est non. Voilà, donc la politique d'interdiction actuelle est néfaste et inefficace. Voilà, on pourrait être en France, on dit exactement les mêmes choses. Oui, il faut dépénaliser l'usage et la détention de cannabis pour ce député socialiste, puisque la répression se révèle un échec et la politique prohibitionniste s'avère néfaste. Voilà, au début, là, les intentions de base étaient louables, diminuer le nombre de consommateurs et de réduire l'accessibilité du produit, assécher les réseaux criminels. Mais les résultats, eux, ne sont pas du tout à la hauteur de cette ambition, au contraire. Hein, voilà. Et Julien de Huitendael de dénoncer, ce sont des centaines de millions d'euros que l'on dépense dans une politique qui ne fonctionne pas. Il s'agit à présent d'avoir un réel débat démocratique sur le sujet, car ce sont les impôts des citoyens qui sont ainsi utilisés pour suivre, un peu comme un poulet sans tête, des réseaux criminels, mais également de simples consommateurs de cannabis qui sont stigmatisés au jour le jour dans les rues de Bruxelles. Voilà, donc ce député socialiste est soutenu sur le terrain par des jeunes écolos et des jeunes MR, je ne sais pas quoi que ça correspond sur l'échiquier français, qui partagent leur politique, sa position. Voilà, pardon. Voilà un petit peu ce qui se passe. Donc, en tout cas... ça bouge un peu et hasard du calendrier, il y a 15 universitaires flamands qui sont contre l'approche répressive en matière de consommation de cannabis. Alors et ça je crois que c'est Le Vif qui en parle, c'est ça ?
C'est un peu mieux, là. Je trouve que l'article suivant du levif.be est plus intéressant. Alors justement, il reprend cette donnée-là, hein, 15 scientifiques... de différentes universités, je ne les retrouve pas dans l'autre article.
Oui, c'est blablabla. Louvain et Gant.
Voilà, Louvain et Gant, donc pareil, hein, qui disent que la politique menée par la Belgique en matière de cannabis est un échec. Ils concluent que cette gestion basée sur des motifs honorables au départ, mais a échoué dans ses objectifs principaux. Je cite, hein, le nombre de consommateurs dépendants augmente, de même que les conséquences graves négatives pour la société. Voilà ce qu'affirme Laetitia Paoli, professeure de criminologie et coordinatrice du groupe de travail sur la politique liée au cannabis de la KUL. Donc je pense que c'est l'université libre. Alors, ce qui est intéressant également dans cet article, et d'ailleurs c'est un peu pareil en France, hein, on s'aperçoit que... alors c'est toujours Madame Paoli, hein, qui dit que... Bah, elle commence en disant, voilà, aucun contrôle n'est possible sur la qualité et la puissance... toutes les conséquences que cela suppose sur la santé publique. La Libre Belgique rapporte également que le nombre de procès-verbaux dressés à Bruxelles pour détention de cannabis a augmenté. Augmentation donc des arrestations. Par contre, un autre député, Rudy Vervoort, un PS aussi, hein, lui, il s'étonne, alors c'est Huitendael aussi, hein, tous les deux s'étonnent, qu'une très large majorité de ces procès-verbaux sont relatifs à de simples faits de détention de drogue et que seulement 505, on a 5000 hein, pour le
plus de, donc à peine 5000, un 10%.
Voilà, concernent des faits de vente, 47 portent sur des faits qualifiés d'aide à la consommation, 113 d'effets d'import-export, 41 de fabrication et 28 autres. Ça, c'est la magie des statistiques. Donc, en fait, comme en France, hein, j'ai envie de dire, la répression se focalise essentiellement sur les petits consommateurs et délaisse les trafiquants et les plus gros importateurs, alors qu'on nous dit sans cesse, hein, qu'il faut continuer à pouvoir poursuivre ou pénaliser, verbaliser les consommateurs pour remonter les filières et démanteler les réseaux, hein, ce qui est complètement faux, hein, statistique à l'appui, on voit bien que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas plus vrai en Belgique qu'en France d'ailleurs. Donc pour M. Whittindale, hein, toujours lui, la politique professionnelle prohibitionniste actuelle est néfaste. Je cite, hein, ces chiffres permettent de constater des mesures de répression grandissantes alors que le gouvernement devrait offrir son aide dans une logique de sécurité, de prévention et de réduction des risques. La pénalisation liée à la possession, à la consommation du cannabis est contre-productive et ne sera jamais un remède à ces problèmes sociétaux. Une vision humaine écartant la punition serait plus pertinente. Voilà. Merci, Monsieur Whittindale.
Moi, je rajouterais, je ne sais pas si tu l'as dit, mais
vas-y.
C'est pas grave si c'est une redite. Il disait, en outre, avec cette prohibition, aucun contrôle n'est possible sur la qualité et la puissance, avec toutes les conséquences que cela suppose pour la santé publique. Je pense que c'est aussi... je suis tout à fait d'accord avec Madame Paoli sur ce point-là.
Mais c'est vrai. Quand on pense à l'alcool, il y a plusieurs alcools qui sont en vente. Ça va du cidre doux jusqu'à la vodka la plus forte. Imaginons que on se remette dans un système de prohibition de l'alcool. Peut-être, je sais pas, mais ça se trouve, ça éliminerait tout un tas d'alcools pas forcément très forts. Il y aurait plus que des alcools forts. En plus de mauvaise qualité, quoi.
Sans doute, il y a beaucoup d'alcool frelaté. Allez, on se fait un tout petit peu de musique et on revient. vient de s'écouter donc Général Alcazar, et je fume.
Voilà. Bon, allez, il nous reste 10 minutes. On va enfin pouvoir s'attaquer à cet article qui nous vient du blog du ex-lieutenant de police Bénédicte Desforges, qui nous dit des choses vachement intéressantes.
Voilà, donc on va essayer de le faire vite parce qu'il est quand même long. Donc,
très long. Siphon, le franc deux fois.
Non à la contravention. Ah, non, parce que c'est une logique quand même. Donc non à la contraventionnalisation pour l'usage de drogue. Donc voilà, elle commence à rappeler quand même que ça vient d'un rapport quand même d'il y a quelques mois de juillet 2017 qui montrait que quand même il y avait des constats que l'usage de drogue était inefficace, sans effet dissuasif. Et en plus, voilà, ce travail de la police était très chronophage pour les forces de l'ordre. 1,2 million d'heures en 2016 et que ça ne servait à rien, quoi. Donc il fallait vraiment faire quelque chose, mettre en place une procédure simplifiée en forfaitisant cette infraction pour régler les problèmes de temps au niveau des policiers et de la justice. Voilà, c'était un petit peu le but du jeu. C'était dans l'autre but du jeu, c'était de l'inclure dans le PIB, mais ça, ils l'ont inclus sans même le légaliser. Et la troisième chose, ça serait de faire des fumeurs de cannabis des citoyens comme les autres. Mais ça, c'est un volet dont ils ont strictement rien à foutre. Donc, les chiffres sont éloquents. On les a dit tout à l'heure, c'est 220 000 infractions à la législation des stupéfiants. Donc l'usage n'a pas arrêté d'augmenter. L'usage de drogue 63 est beaucoup plus que pour le trafic. Hein, donc 63,7% en 2012, 68,1% en 2016.
Ça c'est les interpellations, le pourcentage d'interpellations.
Voilà, tout à fait. Pour usage.
Pour
après,
usage.
Après il y a détention et après il y a trafic. Et il y a trafic, et là, en trafic, c'est 7,1% en 2012 et seulement 3,2% des infractions à la législation des stupéfiants en 2016 est faite pour le trafic. 3,7% des 220 000 interpellations, garde à vue et tout le bazar, donc qui fait perdre 1,2 million d'heures à toute cette police, et il n'y en a quasiment rien qui est fait pour le trafic.
Ben non.
Voilà.
Ah non, et c'est pareil en Belgique, visiblement, parce qu'on vient de l'en parler.
Voilà.
Mais bon, ouais, ça a toujours été le cas. Ouais.
Et il faut rappeler que la France est toujours le pays le plus répressif et pourtant le plus gourmand d'Europe en stupéfiants, notamment le cannabis, opiacés, cocaïne et MDMA. Voilà, donc la répression, comme on le dit et comme on le dit souvent, et comme elle le dit aussi, la répression est sans effet sur l'usage des drogues. Puisque on a quand même depuis 50 ans, depuis 1970, cette loi qui est en plus dans la santé publique, qui est faite pour parce que c'est mauvais de fumer, et donc il faut faire quelque chose pour ces pauvres gens qui fument, donc on interdit la drogue pour leur faire du bien, pour leur santé publique. Et en fait, ce qu'on voit, que ça sert à rien, mais on continue à leur interdire un peu plus, on va les mettre en prison pour leur bien, parce que c'est mauvais pour leur santé.
Calme.
Voilà.
Ben c'est l'esprit de la loi de 70. Et puis
et d'ailleurs, qui n'est pas du tout suivi, puisqu'il n'y a aucune prévention, aucune réduction des risques dans l'application de cette loi actuellement.
Il y en a un peu, mais très peu. Puis de toute façon, on voit bien que plus de 90% de l'argent est consacré à des mesures de répression et un peu moins de 10% pour le soin, la santé, la réduction des risques, ce qui est ridicule, on est bien d'accord.
Bref, ils ont fait des tables rondes, il y avait deux parlementaires qui s'en sont occupés, on en a parlé beaucoup, ils ont fait cette mission pour savoir comment ils allaient faire la forfaitisation de l'amende. En fait, c'était ça la mission. Elle n'avait pas du tout pour objet de réfléchir à la lutte contre la toxicomanie ou à la réforme de la loi de 1970. Ça peut paraître paradoxal et cynique, mais au moins c'est clair. Voilà, donc les deux Gugus, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. L'un, Robin Reda, LR, lui, il était pour une contravention de 4e ou 5e classe. Donc ça aurait été, bon, un truc à 200 euros, 150 euros, voilà, un truc, ouais, ça tape un peu au porte-monnaie. Mais au moins, voilà, à chaque fois que tu te fais prendre, tu payes et on te fout la paix, tu vois, un petit peu comme que tu as dépassé la limitation de vitesse, tu as grillé un feu rouge, bon, c'est pas bien, on te tape sur les doigts, mais tu repars. L'autre, et là, c'est une amende forfaitaire délictuelle. Et c'est là-dessus qu'on va. Donc on ne savait pas bien le prix quand cette dame l'a écrit, mais maintenant on sait que ça va être 300 euros multiplié par deux au bout de, si c'est pas payé sous 40 jours. Et s'il y a récidive, c'est passage devant le juge. Donc on revient à la situation antérieure. Donc en fait, ça avance pas grand chose. Hein. C'est juste primo délinquant, t'as une chance. T'as une chance, tu payes que 300 euros et t'as le droit de rejouer. Mais il faut pas que tu rejoues, quoi. Il faut pas te refaire prendre. Sinon, évidemment, on est obligatoirement inscrit au TAJ. Hein, donc c'est le traitement des empreintes ou des antécédents judiciaires. Voilà, donc il va y avoir. Comment ça va se passer dans la réalité? Donc, il faudra que la police soit bien équipée. Chaque fois qu'elle interviendra et qu'elle chopera quelqu'un qui aura fumé, il faudra qu'elle intervienne avec sa tablette ou son téléphone portable pour savoir si les gens sont déjà eu un casier judiciaire, ouais. Pour savoir s'ils leur mettent une amende ou s'ils vont le faire passer devant le juge.
Eh oui.
Donc, ça va peut-être pas simplifier les choses. Mais en plus, comme ça reste un délit, il faudra aussi que ces personnes, elles donnent leurs empreintes digitales. Donc elles seront convoquées à la police pour aller donner leurs empreintes judiciaires. Digitales. Voilà. Sauf si elles ont un passeport moderne, puisque du coup, la police les a déjà. Mais bon, ça sera juste pour faire la liaison. Mais il y aura quand même des simplifications. Quid des mineurs, par exemple, puisque les mineurs, ils vont passer à trave. Quid des gens qui ont déjà des antécédents judiciaires? Et ceux en récidive, puisqu'ils sont exclus. Donc, comment on va tresser ces gens-là? Ils vont sans doute reprendre le système normal,
ouais.
Et continuer à encombrer les tribunaux. Donc, ça va résoudre qu'une partie de ces problèmes. Exclus aussi du dispositif, les usagers de drogue problématiques. Alors, qu'est-ce que c'est un usager de drogue problématique? Là, c'est très difficile. Il appartiendra au parquet, via une circulaire générale du garde des Sceaux, de préciser dans le cadre de leur instruction le profil des personnes susceptibles de ne pas se voir infliger l'amende forfaitaire. Alors ça, c'est quoi? Alors ça révèle plutôt de la santé, de l'usage des drogues, d'une conduite à risque qui pourrait faire l'objet d'une mesure spécifique. Et ça devra être donc évalué sur la voie publique dans le temps de l'interpellation. Et par qui? Par les forces de l'ordre. Autant dire donc qu'il s'agira là d'une porte grande ouverte à l'approximation, l'erreur de discernement, voire à l'arbitraire. C'est-à-dire, on en revient à la situation actuelle.
Oui, voilà, exactement.
Puisqu'on est déjà dans l'arbitraire. Parce que rappelez-vous, hein, selon que vous soyez une petite Kaira ou un jeune du 16e arrondissement de Paris, vous ne serez pas traité de la même façon. L'un, on vous dira c'est pas bien, à la limite on vous le confisquera, et l'autre, on vous traînera devant le tribunal.
Oui, ou alors si vous êtes du 16e, de toute façon vos parents pourront payer l'amende.
Oui, ou papa interviendra en disant qu'est-ce que c'est? Oh, il y a un de tes flics qui va appeler le ministre, hein, directement. Il y a un de tes flics qui a arrêté.
Mon gonne,
ça va pas du tout. Hein. Genre la fille Pécresse, genre le fils Trier-Valeur.
Voilà.
On va pas faire de la délation non plus. Hein.
C'était public, hein, c'était dans les journaux. Hein.
en tout cas, conséquence, il y a beaucoup d'incohérences. Il s'agit de réprimer le... On voit que toutes les modalités, il s'agit de réprimer la simple usage de drogue. Donc voilà, et en plus, vu tout ce qu'il va falloir faire, ça va peut-être pas être aussi simple que ça. Et donc le gain de temps pour la police et la justice, argument initial pour la mise en place, est seulement difficile à évaluer. Mais en plus, ce gain de temps sera sans doute dérisoire. L'amende forfaitaire est la solution retenue car elle permet d'harmoniser la réponse pénale, jugée illisible et disparate d'un parquet à l'autre. Voilà, mais le problème, c'est que l'individualisation de cette réponse est pourtant indispensable s'agissant d'une conduite individuelle ayant une incidence sur la santé. Et justement, par rapport à ceux des usagers de drogue problématiques. On en arrive à l'incohérence de cette loi. Heureusement, il y a une chose, il est prévu que la mention d'une adresse de structure prenant en charge les toxicomanies et addictions sera au verso de l'avis de contravention. Donc heureusement, l'esprit de la loi 70 sera donc sauvé. Il y aura quand même un petit volet de santé.
Petit, hein. Petit.
Donc il s'agit de sanctions discriminantes à plusieurs titres. Selon les modalités même de cette procédure. Un primo-délinquant redevable d'une amende pourra être sanctionné plus sévèrement qu'un récidiviste dirigé vers un magistrat qui lui sera un rappel à la loi. De plus, cette procédure simplifiée s'appliquera sans surprise à la population bien spécifique, celle des quartiers populaires, jeunes, la moins solvable et surtout la plus vulnérable d'un point de vue social. Pourtant, les chiffres indiquent pourtant que les classes moyennes, on le rappelle, consomment davantage que les plus précaires. La répression s'appliquera-t-elle à une conduite individuelle à risque ou plus confusément à un comportement ou à des individus? Voilà, donc là-dessus, ça va être très compliqué, on ne sait pas trop ce qui va se passer. En tout cas, elle conclut un peu en disant tout ça pour ça. En effet, dans le document et de façon récurrente, les deux députés insistent sur le principe de ne pas faire distinction entre les stupéfiants. Et ça, ça avait l'air de mettre tout le monde d'accord, mais a priori, ce n'est pas du tout dans la loi. Au final, on ne parle plus de stupéfiants, mais on ne parle que de cannabis. Voilà. Là, elle dit un truc qui est assez marrant, même si je suis qu'à moitié d'accord avec elle. Elle dit ça va faire perdurer le mythe de la drogue dure et de la drogue douce au mépris de la réalité de l'usage des drogues. Alors je suis assez d'accord avec elle, puisqu'il peut y avoir des usages doux de drogue dure et des usages durs de drogue douce. Mais il faut quand même rappeler que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, c'est qu'il n'y a jamais eu de meurtre et d'overdose mortelle à cause du cannabis. Alors que ce n'est pas le cas avec certains opiacés en particulier, et avec d'autres nouvelles drogues actuelles. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est que la contraventionnalisation de l'usage de cannabis fera partie d'un ensemble de forfaitisations de petits délits, manière de taper tout de suite au porte-monnaie pour travailler à la reconquête républicaine de certains quartiers. L'usage de drogue et de cannabis donc se trouve purement et simplement classé dans la catégorie des incivilités et ne sera in fine qu'un problème d'ordre public. Alors que la loi 70, comme on vous le disait tout à l'heure, c'était quand même était de sanctionner pénalement les seuls usagers se soustrayant aux soins. Voilà, avec la contraventionnalisation, il est purement et simplement dissocié de l'usage des drogues. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand la police de sécurité du quotidien va taper sur les populations? Je ne pense pas que c'est comme ça qu'ils vont créer des liens. Oubliez aussi la prévention, là aussi. Je ne pense pas que ce soit la police qui aille faire de la prévention. Voilà, donc il rappelle que avec la révolution numérique pour la police du 21e siècle, ces îlotiers équipés pour une optimisation du rendement et seront des artisans d'une police sans âme, aussi d'impopulaires collecteurs de taxes pour un État proxénète irresponsable. Elle tape quand même assez fort. En conclusion, elle dit que c'est quand même la moralité de l'histoire, c'est un rendez-vous manqué avec la raison. On pourrait même rajouter avec l'histoire si on voulait être grandiloquent. La politique des drogues et de santé publique est contournée. Voilà, la politique de répression et la répression, la prohibition et la répression restent le principe, sourd à tous signaux d'alarme qui s'allument les uns après les autres. Pourtant, le constat de l'inutilité de la répression et de l'usage de drogue est unanime. Voilà, et il faut. Même l'OMS dit qu'il faut réviser et abroger les lois punitives. Il est avéré donc depuis longtemps que les incidences négatives sur la santé, donc de la prohibition, et que ça va à l'encontre des données probantes établies en santé publique, partout où il y a une certaine légalisation. On parle surtout du cas du Portugal, puisque c'est un des plus anciens, ou voire de la Hollande, où là aussi, c'est quand même des pays, ça fait très longtemps que le cannabis est légalisé. Voilà, la régulation du marché du cannabis est une question qui ne pourra d'ailleurs pas être évitée ad vitam aeternam. Voilà, il y a urgence à changer de politique. Il faut faire quelque chose. De nouveaux produits apparaissent régulièrement. La cocaïne est de plus en plus dure. La festive MDMA s'invite dans les SAMU. Le faux de THC.
Le taux
de THC du cannabis de rue est élevé. Le fentanyl, qui a fait baisser l'espérance de vie aux États-Unis depuis 2 ans à coup d'overdose, est désormais un produit en coupe de l'héroïne en France.
Super.
Voilà, donc il rappelle tous les problèmes qui sont dus à la prohibition. Les mineurs n'ont que faire des interdits, bien au contraire. Voilà, je vais m'arrêter parce que je commence à bien déborder. Et je vais arriver juste sur la dernière fois. L'usage de drogue doit être purement et simplement dépénalisé, sans demi-mesure répressive.
Et moi, je rajouterais que ce n'est pas d'une dépénalisation sans demi-mesure, mais c'est d'une légalisation qu'il faut parler, d'une réglementation. C'est le terme à la mode aujourd'hui. Voilà, en tout cas, changer de politique radicalement, une bonne fois pour toutes, ça, c'est certain.
Voilà, j'ai essayé de résumer ce texte de 6 pages sans trop trahir l'esprit, voilà, parce qu'il était quand même assez intéressant. Et justement, de faire cette comparaison et de rappeler que la loi de 1970 était d'abord une loi de santé publique à la base et qu'aujourd'hui, on est uniquement dans la répression et que ces amendes délictuelles vont continuer à être dans la répression totalement.
C'est pas si simple, c'est un débat, hein, que de dire que la loi de 70 était une loi de santé publique. Donc l'aspect santé a été arraché au dernier moment par le ministère de la Santé. Hein. En 70, il y avait une lutte entre la santé et l'intérieur, et ça a failli tout aller à l'intérieur, et finalement on s'est dit, bon, on va mettre un petit peu de santé, mais c'est tout. Hein.
Pour faire propre.
Et pour faire quand même le rapport de force était défavorable à l'aspect sanitaire.
Bah, de toute manière,
et finalement, ça s'est retrouvé dans l'application de la loi jusqu'à aujourd'hui.
À quoi a servi cette loi? C'est justement aussi à mettre fin à 68, ouais. en créant un clou et en pouvant faire un contrôle social sur toutes les communautés de fumeurs.
Tout à fait, d'ailleurs.
Et sur tous les groupes, puisque dans tous les groupes, il y avait des fumeurs et donc il y avait une envie.
Tout à fait, c'est ce que d'ailleurs disait Lilian Mathieu, dont on a parlé, dont on a lu le texte la semaine dernière. Parlait d'une disposition prise par une droite revancharde après mai 68, c'est tout à fait ça. Voilà, et bien c'est la fin de Cannabis Circus aujourd'hui, lundi 26 mars 2018. Cannabis Circus présenté par le Cirque Lyon, que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07 ou par mail cirque-lyon@no-log.org. Je vous invite à consulter nos pages Facebook et du Cirque Lyon. Et il y aura certainement pas de Cannabis Circus lundi prochain, parce qu'on sera lundi de Pâques. Et je suis pas certain qu'on soit là. Sinon, à la semaine d'après. Maintenant, c'est Chasseur de Son. Au revoir.